12h15. Marceline Michon.
Bonjour, c'est la dernière éclipse de lune totale avant 3 ans. Elle sera visible dans la région très tôt lundi aux alentours de 4h du matin. Le magazine de la rédaction s'intéressera à ce phénomène qui fascine les amateurs d'astronomie. Il n'y a plus de Suissesse à l'Open d'Australie de tennis. Timia Bacinski s'est inclinée ce matin en 2-7 contre l'Espagnol Garbiñe Muguruza. Si cette défaite est logique, l'exploit ne semblait pas impossible. Le HC Bien qui pleure, le HC Ajoie qui rit en hockey sur glace. Les Ceylandais se sont inclinés à Zoug hier soir en National League, tandis que les Jurassiens se sont payés le scalp d'Olten, leader de Swiss League. Le soleil sera de la partie cet après-midi, malgré quelques voiles d'altitude. Les nuages vont s'intensifier ce soir et quelques flocons pourraient tomber cette nuit. Il fera jusqu'à 3 degrés en Ajoie et 2 sur le Ceyland, maximum 1 degré dans les vallons jurassiens et les franches montagnes. Et on commence ce journal avec l'actualité internationale. Les Gilets jaunes ont débuté ce matin leur 10e journée d'action. Vers 10h30, plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés dans le calme sur les Champs-Élysées, point de ralliement récurrent à Paris. Leur mobilisation sera scrutée sur tout le territoire français, quelques jours après le lancement par Emmanuel Macron du grand débat national. Une mobilisation au moins égale à la semaine dernière est attendue, a indiqué une source policière. Plus de 80 000 personnes avaient été recensées samedi dernier. 80 000 policiers et gendarmes sont également mobilisés en France. Les Gilets jaunes font également l'actualité des tribunaux. 4 d'entre eux ont été condamnés hier à des peines allant jusqu'à 1 an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Dijon. Ils étaient poursuivis pour avoir agressé des gendarmes lors d'une récente manifestation. Au moins 21 morts et 71 blessés dans l'incendie d'un oléoduc au Mexique. La conduite de pétrole présentait une fuite et des dizaines d'habitants venaient y voler de l'essence. Le drame s'est produit dans le centre du pays, en pleine offensive du gouvernement mexicain contre les vols de carburant. Ces délits ont causé une perte de quelque 3 milliards de dollars à l'État mexicain en 2017. Plusieurs oléoducs ont été fermés ces 2 dernières semaines par le gouvernement. Cette stratégie a provoqué une pénurie de carburant dans une dizaine d'États du pays. Le dialogue de paix est enterré en Colombie. Le président Iván Duque a renoncé aux discussions avec l'armée de libération nationale. Il a réactivé hier les mandats d'arrêt contre des membres de la dernière guérilla du pays. Un attentat vient d'être attribué à cette rébellion. Il a fait 20 morts jeudi dans la capitale colombienne. Donald Trump fera une annonce majeure ce soir au sujet du shutdown. Le président américain devrait s'exprimer vers 21h heure suisse sur la paralysie partielle de l'administration fédérale. Elle dure depuis près d'un mois. Donald Trump l'a annoncé hier sur son compte Twitter. Il n'a pas fourni d'autres précisions. L'impasse budgétaire affecte quelque 800 000 employés fédéraux. Ils ne sont plus payés depuis le 22 décembre. Le mur que veut ériger Donald Trump à la frontière avec le Mexique figure au cœur du conflit. Il réclame l'inscription dans le budget d'une enveloppe de 5,7 milliards de dollars. Les démocrates ne veulent pas en entendre parler. Retour en Suisse où la justice genevoise devrait pouvoir poursuivre Pierre Maudet sur le dossier Manotel. Le conseiller d'État genevois est soupçonné d'une possible acceptation d'un avantage de la part du groupe. La commission législative a annoncé hier soir sa décision sans plus de commentaires. Elle répond ainsi à une requête du ministère public. L'enquête a permis de constater que Manotel a notamment financé une soirée d'anniversaire pour Pierre Maudet d'une valeur de 20 000 francs. Cela fait 3/4 de siècle qu'elle renseigne les passagers du rail. L'horloge des CFF fête ses 75 ans cette année. Le premier modèle a été créé par un ingénieur employé des chemins de fer fédéraux en 1944. Et la particularité majeure de l'horloge, c'est sa trotteuse. Elle s'immobilise un court instant une fois arrivée au sommet du cadran. Un mécanisme envoûtant pour Olivier Luder, conducteur au chemin de fer du Jura depuis 38 ans.
C'est un petit côté hypnotisant parce qu'on regarde cette aiguille des secondes qui a d'ailleurs un petit peu l'allure des signalisations ferroviaires, elle est un petit peu comme les signalisations à l'époque, comme les sémaphores, et puis cette aiguille des secondes elle tourne et puis elle tourne assez vite, puis tout d'un coup tac, pile, elle s'arrête, et puis quand elle s'arrête on sait que ça sera bientôt l'heure de partir, mais on doit attendre que l'aiguille des minutes ait bougé, donc on est fixé sur cette aiguille des secondes qui ne bouge plus. On a l'impression que tout est figé pendant quelques instants jusqu'au moment où l'aiguille des minutes bouge et qu'on peut y aller.
L'horloge est aujourd'hui toujours fabriquée dans l'Emmental bernois et plus de 5000 exemplaires occupent les gares helvétiques. Retrouvez l'entretien complet réalisé avec Olivier Luder sur notre site internet.
Le magazine
Pensez-y, dès aujourd'hui, il faudra se lever très tôt lundi pour assister à un jeu de cache-cache entre la Terre et son orbite. Une éclipse de lune totale sera visible dans notre région entre 4h30 et 5h30 du matin. La prochaine n'aura lieu que dans 3 ans. Des circonstances bien particulières provoquent une éclipse de lune totale. Le magazine de la rédaction vous propose l'éclairage de Robert Ubersax, vice-président de la Société jurassienne d'astronomie.
Ça a toujours lieu quand les 3 astres sont totalement alignés, c'est-à-dire le Soleil, la Terre et la Lune. Pour qu'il y ait une éclipse de Lune, il faut simplement que la Terre soit entre le Soleil et la Lune. Donc c'est en fait la projection de l'ombre terrestre qui fait l'éclipse de Lune.
Il existe aussi des éclipses de Lune partielles, celle-ci sera totale. Quelle différence entre les deux ?
La différence, c'est au point de vue de la couleur. Quand l'éclipse de Lune est vraiment totale, ça donne une couleur un petit peu orangée-rouge à la Lune. On la voit toujours, mais elle n'est plus du tout éclairée en fait par le Soleil, parce qu'elle est complètement cachée par l'ombre terrestre. Si c'est une éclipse partielle, on a une partie de la Lune qui apparaîtra encore, on va dire blanche, hein, puisque c'est toujours quand il y a une pleine Lune, et puis une petite partie qui est par exemple orangée, puisque l'ombre de la Terre n'est que partielle en fait.
Comme vous nous l'expliquez, il faut plusieurs circonstances pour assister à une éclipse de Lune totale. C'est un phénomène qui se produit souvent. À quel rythme ?
On ne peut pas dire que ça se passe souvent parce que la rotation de la Lune autour de la Terre n'est pas une rotation qui est complètement droite, c'est-à-dire qu'elle est décalée de quelques degrés, donc on n'a pas des éclipses de Lune tout le temps. Maintenant, on en aura une en 2019 et puis la prochaine aura lieu en 2022.
Malgré tout, on arrive à prédire ces éclipses puisqu'on sait que la prochaine aura lieu en mai 2022. Comment on fait pour prédire cela ?
Alors bon, il y a des éphémérides qui sont faites avec la rotation de la Lune autour de la Terre, puis avec le décalage qu'il y a de ces degrés, on peut dire maintenant à quel moment on aura une éclipse de Lune. Et c'est la même chose, par exemple, avec les éclipses de Soleil aussi, d'ailleurs.
Cette éclipse-ci va durer seulement une heure. En juillet dernier, elle avait duré plus de 6 heures. Comment on peut expliquer ça ?
En juillet dernier, c'est parce qu'on la voyait dès le soir, tandis que celle qu'on aura, ce sera vraiment en toute fin de nuit, la Lune sera complètement plaquée vers l'ouest, donc il faut regarder vers l'ouest. On ne la voit que pendant une heure, parce qu'après la Lune disparaît, puisqu'elle tourne autour de la Terre et donc elle disparaît. Donc c'est surtout les Américains qui, eux, vont avoir une éclipse de Lune plus longue, parce que pour eux, bah, il fera nuit tout simplement.
Qu'est-ce qu'on peut voir concrètement pendant une éclipse de Lune ? Vous nous parliez de la couleur rouge, c'est ce à quoi on peut assister ?
Tout à fait. Et puis bon, il n'y a pas besoin d'avoir un télescope ou une lunette spécifique. Une paire de jumelles, ça suffit. On peut distinguer quelques cratères. Ça peut être assez intéressant. Il faut aussi que la météo soit vraiment bonne. Donc là, ça c'est un aléa différent.
Cette couleur rouge, elle vient d'où ?
Le soleil éclaire la Terre, éclaire l'atmosphère terrestre. La projection de cette ombre provoque justement cette couleur rouge, enfin cette couleur un peu ocre rouge qui apparaît sur la Lune.
Est-ce qu'on peut comparer ça au lever ou au coucher du soleil ? On voit aussi parfois un ciel rouge. On peut comparer ce phénomène-là ?
Tout à fait, parce que c'est l'atmosphère terrestre qui nous fait apparaître ces astres comme ça. Donc c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que, par exemple, quand on a un lever de soleil, un très beau lever de soleil, on a l'impression que le soleil est plus grand le matin qu'à midi. C'est tout simplement parce qu'il y a une diffraction au point de vue de l'atmosphère terrestre et c'est pour ça qu'il nous paraît plus grand.
Si on vient maintenant dans la région, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? Vous le disiez, on ne sera pas très bien doté pour cette éclipse-ci.
Ça va durer qu'une petite heure. La Lune sera très basse sur l'horizon, c'est pas aussi intéressant que l'éclipse qu'on a eue au mois de juillet.
Le ciel devrait être partiellement couvert dans la nuit de dimanche à lundi. Cela pourrait compromettre une bonne visibilité de l'éclipse.
Sport.
Émilie Moumentaler, c'est terminé pour Timea Bachinski à l'Open d'Australie.
Oui, la joueuse de tennis vaudoise a été éliminée au stade des 16e de finale par Garbiñe Muguruza ce matin lors du Grand Chelem de Melbourne. Tête de série numéro 18, l'Espagnole a emporté 7-6-6-2 en un peu moins de 2 heures de jeu. Si cette défaite semble logique, Timea Bachinski n'a pas à rougir de sa performance. Jean-Paul Pichi.
Timea Bachinski peut même nourrir quelques regrets. La vaudoise a eu sa chance dans le premier set. Elle a mené 4-2, puis 4-3, 45 sur son service dans le premier set avant de le laisser filer au tie-break. Le dénouement aurait pu être tout autre avec une manche d'avance face à une adversaire qui avait conclu son deuxième tour hier à 3h12 du matin. Le deuxième set n'a ensuite été qu'une formalité pour Garbiñe Muguruza. L'ancienne numéro 1 mondiale, vainqueur de 2 tournois du Grand Chelem, a même pu remporter les 5 derniers jeu de la partie. Timea Bachinski a manqué de rigueur et de souffle pour tenir la distance. La variété de son jeu n'aura pas non plus suffi à contrer la force de frappe de son adversaire. De retour en pleine possession de ses moyens après une année 2018 gâchée par les blessures, la vaudoise semble toutefois en mesure de se rappeler au bon souvenir des meilleurs.
Roger Federer est donc le seul représentant helvétique encore en lice à l'Open d'Australie. Le Balois jouera son 8e de finale contre le grec Stefanos Tsitsipas demain dès 9h, heure suisse, sur la Rod Laver Arena. Ramona Simbenhofer confirme à Cortina. La skieuse autrichienne a doublé la mise en enlevant la 2e descente de la station italienne 24 heures après sa première victoire en Coupe du Monde. Elle a devancé sa compatriote Nicole Schmidhofer et la slovène Ilka Stuec. Michel Gisin sauve le bilan suisse avec sa 7e place. Les autres ont été relégués bien plus loin avec Yasmine Flouri 19e, Johanna Ellen 21e, juste devant Lara Gut Berami. La technicienne Wendy Holdener a fini 26e. Place à présent au grand rendez-vous de Wengen. Beat Feutz espère bien épingler le mythique Lauberhorn aujourd'hui pour la 3e fois après ses succès en 2012 et 2018. Le skieur bernois est le favori de cette descente de Coupe du Monde alors qu'il a été très à l'aise lors du premier entraînement mercredi. Excellent sur presque toutes les descentes cet hiver, le Suisse donne le sentiment d'être un ton au-dessus sur l'une des plus belles pistes du monde. Alors ressent-il la pression qui pèse sur ses épaules? La réponse de Beat Feutz.
Ja, Druck. Druck gibt es schlussendlich bei jedem Rennen. Also es geht immer um 100 Punkte.
Oui, la pression. Il y en a à chaque course avec 100 points en jeu, qu'il y ait 20 spectateurs ou 40 000. Donc théoriquement, la pression est toujours la même. Mais clairement, quand il y a du monde, ça remue un peu plus dans le corps. C'est bien en fait. En tout cas, moi ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que je dis depuis des saisons que ce sont mes courses préférées et mon moment clé dans la saison.
Schon seit Jahren sage ich immer, dass das meine liebsten Rennen sind und meine Highlights der Saison.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Wengen, Adrien Juvet. Le coup d'envoi de la descente du Lauberhorn, c'est donc dans quelques instants, à 12h30. Beat Feutz s'élancera avec le dossard numéro 5. On passe à l'actualité régionale où la marche était trop haute pour la HCBN hier soir en Suisse centrale. Les hockeyeurs zélandais se sont inclinés 4-1 à Zoug pour chuter à la 5e place de National League. Ils ne comptent plus que 6 points d'avance sur la barre. L'équipe d'Antti Turmenen a de nouveau manqué de tranchant devant la cage adverse. Pourtant, l'envie de bousculer le solide leader était bien là, le capitaine bénois Mathieu de Chantry.
Très très déçu. Il y a un peu de frustration aussi. On joue pas mauvais, mais c'est pas assez. Surtout après le dernier match où j'ai eu l'impression qu'on a vraiment un peu retrouvé notre jeu. Mais en ce moment, Zouk était juste mieux. Puis on n'a pas réussi à marquer, c'est très très simple.
C'est tellement serré ce championnat, là vous êtes à plus 6 points sur la barre. C'est interdit au stade actuel de la saison de perdre 2 matchs de suite. C'est-à-dire que ce samedi contre Davos, il faut gagner.
Exactement, je pense que chaque point en ce moment est très très important. C'était jamais comme ça depuis longtemps, je pense. Il faut savoir aussi manager la situation, la pression, et ça fait partie du jeu aussi.
Mathieu Chantry répondait à Raphaël Chalvera. Le HCBN reçoit donc Davos ce soir à la Tissot Arena. Un match à vivre en direct sur l'antenne de RJB dès 19h30. Le HC Ajoie revient lui à 4 points de la place de leader de Swiss League. Ceci grâce à sa belle victoire acquise hier soir à Olten 4-1. Si les Jurassiens ont rapidement pris les devants, c'est dans le dernier tiers qu'ils ont assis leur victoire. Un résultat qui permet de tirer plusieurs enseignements à un mois de la fin du championnat régulier, Cyprien Lovie.
Oui, le premier, c'est que le HC Ajoie possède véritablement la meilleure organisation défensive de Swiss League. 3 jours après avoir cafouillé contre Langenthal, gardiens et défenseurs ont rendu une copie propre qui inspire confiance. Le second, c'est que même lorsqu'Ajoie n'emmène pas large, il sait faire le dos rond, attendre son heure. Ce fut le cas hier entre l'ami-match et le but victorieux inscrit par 3 joueurs sur le roi. Encore merci. Le troisième, c'est que son entraîneur Gary Sheehan a toujours plus d'un tour dans son sac. Hier, il a testé la formule Thibaut Frossard avec les Québécois, un centre à l'aile, aussi surprenant que réussi. Ainsi, ce succès prouve définitivement que le HCA est capable de battre n'importe qui, n'importe où, à partir du moment où il se montre discipliné et irréprochable dans son jeu défensif.
En première ligue, le HC Franche-Montagne se déplace à Berthoud à 17h30. Les 100 et or tenteront de ne pas perdre de plume face aux Bernois afin de rester en contact du leader Lys avec qui ils partagent le même nombre de points. De son côté, le HC Satimi reçoit Mérin à 18h. Les Bats ont l'occasion de conforter leur place parmi les 8 premiers face à un adversaire qui milite sous la barre. On descend encore d'un échelon avec Moutier qui joue à domicile face à la Lanterne Rouge Le Locle à 17h30 en deuxième ligue. Le leader Tramelan reçoit Sarine Fribourg à 20h15. Enfin, à la même heure, le HC Franche-Montagne 2 accueille le deuxième Star Chaudefonds à Seignelay-Gier. Le BC Boncourt peut signer la passe de 3 en championnat. Les Ajoulots se déplacent à Lucerne aujourd'hui pour affronter Suisse Centrale à 18h en Swiss Basketball League. Ils ont l'occasion de prendre leur distance sur la barre et sur leur adversaire du jour. Le volleyball Franche-Montagne peut lui aussi enchaîner avec une troisième victoire de suite en Liga. Les Téniennes jouent chez la Lanterne Rouge Genève à 17h. Et on change encore de ballon pour celui de football. Le FC Bienne affronte Koenitz à la Tissot Arena à 14h30 pour son premier match de préparation. Un adversaire qui évolue en un échelon au-dessus en Promotion League.
Merci Émilie pour ce moment consacré au sport. Et c'est maintenant que débute la descente du Lauberhorn à Wengen, cette descente qui est tant attendue. Tout de suite, un rendez-vous avec le bulletin d'enneigement.
La météo des neiges avec le domaine skiable des Bugnonnais-Savanières.
On commence avec le ski de fond pour vous dire que dans la région, il n'y a aucun souci. Toutes les pistes sont ouvertes, elles sont bonnes. Le parcours est parfois difficile entre la Combe à la Biche et Mont-Soleil. Mais sinon, il n'y a aucun souci pour pratiquer le ski de fond sur l'ensemble de la région. Avec un rappel, merci aux marcheurs et aux cavaliers de ne pas utiliser les pistes de ski de fond qui sont tracées. En ce qui concerne le ski de piste et le ski alpin, là aussi, il n'y a pas trop de soucis pour s'adonner à ce sport. Les Bugnonnais-Savanières, les 8 pistes et les 8 installations fonctionnent. Les Prédorvins, 3 sur 5. Tramelan, les 3 installations fonctionnent. Les Breuleux, les Genevais, Grandval, pas de soucis. Les Orval, Malrais, là, les pistes sont fermées également. Également, le Chaluet court et les écorcheresses. On aimerait également vous rappeler qu'il y a toujours la possibilité de faire, notamment avec le parcours du Yeti de la raquette sur l'ensemble de la région. On rappelle également, puisque c'était l'un des sujets que l'on partageait dans format A3, il y a un petit peu plus d'une semaine, il y a 250 km de pistes pour faire de la raquette sur l'ensemble de l'arc jurassien. Profitez-en!
C'était la météo des neiges avec le domaine skiable des Bugnonnais-Savanières.
On y va avec la météo, avec, comme vous pouvez le constater, une météo qui est plutôt agréable, avec du soleil, il faut bien en profiter. Cet après-midi, attention, à partir de ce soir, il peut y avoir quelques nuages et quelques flocons dans la nuit. Les températures, elles sont bien sûr fraîches, avec un maximum de 1 degré sur l'ensemble de la région de Lémont, Porrentruy, Seignelégier également, si l'on va du côté de Tramelan, Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds également 1 degré aujourd'hui. Évolution probable pour demain avec un temps souvent nuageux, quelques averses de neige, les températures elles restent fraîches. Lundi, temps nuageux à couvert, nombreux bancs de nuages bas, les températures elles restent fraîches. Mardi, un temps ensoleillé le matin, quelques brouillards givrants dans les vallons et au pied du massif, augmentation de la couverture nuageuse l'après-midi et chute de neige probable dans la soirée et dans la nuit.